Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en langue française diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Confirmé comme région souveraine de l'Indonésie, le président Jokowi a demandé de développer l'économie à Natuna. TNI renforce les capacités en mer de Chine méridionale. La base militaire à Natuna pourrait terminer immédiatement. Le gouvernement fera à Natuna une nouvelle destination touristique. Le Royaume-Uni et l'Indonésie partagent des expériences de contrôle de la circulation aérienne. Et enfin, le ministère de l'Industrie fait la promotion du café de spécialité indonésien à l'Europe. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo, accompagné par le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne, TNI, et la secrétaire du cabinet, a observé les eaux de Natuna, les îles de Riau, du bateau de guerre indonésien KRI Imam Bonjol jeudi. Le présent président Joko Widodo, qui a présidé une réunion limitée sur le KRI Imam Bonjol, est une confirmation que cette île était le territoire souverain de la République d'Indonésie. À cette occasion, le président a également demandé de développer l'économie à l'île de Natuna, en particulier liée à la pêche et le pétrole et le gaz. Auparavant, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a affirmé que depuis le début du gouvernement du président Joko Widodo a toujours souligné le premier, le développement des régions ultra-périphériques devrait être prioritaire et la seconde, à propos de la souveraineté et des droits souverains doivent être préservés et maintenus. Cette fois, l'attention du président est sur l'île de Natuna comme l'angle de la région ou les îles ultra-périphériques de l'Indonésie. Le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne, TNI, le général Gatot Nurmantio, a affirmé que TNI surveille toujours et agit le développement de la situation dans la mer de Chine méridionale. Gatot Nurmantio a souligné jeudi que TNI guidera toujours et obéit les directives de la politique étrangère du gouvernement. Selon lui, concernant la situation en mer de Chine méridionale, les directives de la politique étrangère du gouvernement sont de réaliser des conditions pacifiques et la stabilité. En conséquence, toutes les parties ne font pas des activités qui pourraient accroître la tension à l'alentour de la zone de mer de Chine méridionale. En outre, le commandant en chef de TNI a confirmé que TNI continuera à renforcer sa présence et les capacités de TNI dans la mer de Chine méridionale. Ceci est en conformité avec les instructions du président Joko Widodo au cours d'une réunion limitée du cabinet sur le KRI Imam Bonjol 383 aux îles de Natuna jeudi. Le vice-président de la commission du Parlement, Hanafi Rais, a déclaré que la nécessité de l'Indonésie sur la présence de bases militaires à Natuna était urgente, parce que les navires battant pavillon chinois entrent souvent dans ces eaux territoriales. Hanafi Rais a déclaré récemment que les eaux territoriales de Natuna étaient une zone économique exclusive appartenant à l'Indonésie qui était reconnue par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS. Cependant, la Chine revendique cette région et leur zone de pêche traditionnelle. Il ajoutait que l'incident à Natuna entre l'Indonésie et la Chine vendredi le 7 juin doit être résolu par des négociations pacifiques. Toutefois, le renforcement des ressources militaires à Natuna doit également être fait comme une mesure de sécurité. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, fera bientôt Natuna et ses environs comme une nouvelle destination touristique. Cela est en conformité avec les directives du président, a dit Arif Yahya à Jakarta jeudi. Le ministre Arif Yahya a dit qu'il a commencé à consolider pour développer Natuna et ses environs comme une nouvelle destination touristique. Selon Arif Yahya, Natuna et ses environs, comme les îles extérieures de la République unitaire d'Indonésie, ont un potentiel touristique, notamment en termes de maritime. Par conséquent, il va développer Natuna comme la destination maritime soutenue par l'infrastructure plus adéquate. L'ambassadeur britannique en Indonésie, Muazzam Malik, a dit que le Royaume-Uni et l'Indonésie coopéraient et partageaient leurs expériences de contrôle de la circulation aérienne. La coopération a été commencée dans la signature du contrat le 3 juin 2015 pour aider à augmenter la capacité de l'aéroport international Soekarno-Hatta de 72 à 86 mouvements d'avions par heure sans changer la configuration de la refait d'atterrissage. Le Royaume-Uni, par de divers organismes et institutions, a déclaré Malik, a déterminé à aider l'Indonésie pour que ce pays puisse contrôler tous les espaces aériens. Le ministère de l'Industrie facilite des activités de promotion des produits de café de spécialité de l'Indonésie à l'Exposition mondiale de café, WOC, à la Royal Dublin Society, RDS, en Irlande. Ces efforts visent également à élargir des marchés d'exportation des produits de café en Indonésie, principalement vers les pays européens. Le directeur de l'industrie des boissons des produits du tabac du ministère de l'Industrie, Willem Petrus Riwu, a déclaré jeudi à Jakarta, dans un communiqué de presse, qu'il introduirait des cafés indonésiens et la diversification des produits de café en Indonésie à la communauté internationale, en particulier l'Union européenne. Les activités de promotion en collaboration avec le ministère de l'Industrie, l'ambassade d'Indonésie à Londres, l'ambassade à Bruxelles, l'association des exportateurs et l'industrie de café indonésien et l'association de café de spécialité indonésien. En 2015, l'Indonésie a exporté le café vers l'Europe jusqu'à 180 000 tonnes. On espère la participation dans l'arène internationale tenue du 23 au 25 juin 2016 renforce la valeur des exportations de café de l'Indonésie à l'avenir. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Sazim Longten, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre. Est-ce que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne? Le 23 juin 2016, le peuple britannique a pris une décision historique à travers un référendum pour rester membre de l'Union européenne ou sortir. Ce référendum mettra fin à l'incertitude qui a duré assez longtemps. Le vote se termine à 22 heures. Heure du Royaume-Uni et le résultat n'a pas encore été informé jusqu'à ce que ce commentaire est signalé. Bien que la commission électorale prévoit que le Royaume-Uni peut annoncer le résultat du référendum à l'heure du petit déjeuner le vendredi matin 24 juin heure du Royaume-Uni, qui est différent d'environ 7 heures de temps indonésien. En ce qui concerne ce référendum, le peuple du Royaume-Uni sont divisés en deux opinions, rester membre de l'Union européenne ou laisser. Si le référendum résulte que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, il sera le premier pays à quitter le bloc économique. L'Union européenne a été créée en 1957 comme la Communauté économique européenne qui a été changée à l'Union européenne en 1993. Cette organisation économique a émergé comme un nouveau pays sur le continent européen. Cette organisation a une constitution, le parlement, la monnaie et a même son propre président et le capital. Son territoire comprend l'Irlande à la Grèce avec une population de 500 millions de personnes vivant dans 28 pays. Le premier ministre du Royaume-Uni, David Cameron, et la plupart de ses ministres veulent la Grande-Bretagne de rester dans l'organisation de l'Union européenne. Mais en fait, depuis son adhésion en 1973, la plupart des gens britanniques ont demandé à leur État et gouvernement à être autodéterminés. Non pas parce que le pays est séparé du continent européen, ils pensent sans adhérer à l'Union européenne, le Royaume-Uni reste victorieux. Le discours de Brexit où la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne est de plus débattu lorsque plus de la moitié des membres du Parlement du Royaume-Uni, en particulier du Parti conservateur, a remporté le vote pour l'organisation du référendum. De vives critiques sur le gouvernement de David Cameron se produisent également, parce qu'il y a des ministres qui sont pro-Brexit. La question se pose, quel est l'impact sur le Royaume-Uni si le résultat du référendum décide de quitter l'Union européenne? La Grande-Bretagne doit être prête à faire face à l'impact économique, en particulier dans le domaine de l'investissement et du commerce. D'autre part, le pays sera autosuffisant pour qu'il puisse profiter de son impact positif. L'Angleterre était une fois un État très puissant dont les colonies étaient dans diverses parties du monde. Peut-être le pays se sentira beaucoup plus libre de déterminer ses politiques économiques, y compris l'investissement et le commerce au moment de quitter l'Union européenne. Certes, le Royaume-Uni, en tant que membre de l'Union européenne, il est le bénéficiaire de 20% des investissements des pays européens. Le second impact est si le Royaume-Uni sera mieux après avoir quitté le pacte économique, cela peut encourager les autres pays à suivre la même mesure prise par le Royaume-Uni. Ces deux possibilités ne sont pas encore prouvées, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un seul pays qui quitte l'Union européenne. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, auditrices du monde entier, nous allons vous raconter dans notre programme l'histoire d'aujourd'hui, la Voix de l'Indonésie de l'édition 24 juin. On va commencer le 24 juin 1901, Picasso expose. Un peintre andalou de 19 ans, Pablo Picasso, exposait le marchand de tableaux Ambroise Foyart à Paris, 64 peintures d'inspiration impressionniste. Ses toiles frappent par la netteté du dessin et la violence des couleurs. Artiste protéiforme, période bleue et rose, cubisme, néoclassisme, tentation surréaliste, expressionnisme. Picasso bouleversera l'art moderne. On continue le 24 juin 1948, début du Bloc de Berlin. En riposte à la décision des Alliés de violer les accords de Potsdam en fusionnant les zones d'occupation américaines, anglaises et françaises, et en instaurant le Deutschmark, Staline décide d'établir un blocus autour de Berlin. Face à ce blocage, les Occidentaux ne mettront que 2 jours pour trouver une solution qui évite la guerre et dont l'efficacité, tant factuelle que symbolique, est garantie. Ils mettent en place un blocus aérien pour ravitailler la ville. Mais désormais, la rupture entre les deux blocs et par conséquent entre les deux Allemagnes semble entérinée. Même si le blocus dure moins d'un an, Berlin-Ouest revêt son statut d'enclave pour plus de 40 ans. En sens, le 24 juin 1976, la réunification du Vietnam. Après le retrait des troupes américaines et la prise de Saigon par l'armée du Nord-Vietnam, le Vietnam est réunifié et la République socialiste proclamée. Le nouveau gouvernement engage le Sud-Vietnam dans une politique de nationalisation des entreprises et de collectivisation des terres, entraînant l'exode de milliers d'opposants qui s'enfuient par bateau. C'est le début de Boat People. En 2000, le 24 juin 1995, l'Afrique du Sud retrouve son honneur. Nelson Mandela arbore fièrement le maillot de son équipe qui fête son retour sur la scène de rugby international par une victoire. En effet, exclu des compétitions jusqu'en 1992 à cause de l'apartheid, l'Afrique du Sud participe pour la première fois à la Coupe du Monde et l'emporte sur la Nouvelle-Zélande en finale avec une équipe mixte. Malmenée en demi-finale par l'équipe de France, elle commet un parcours sans faute et passe outre le phénomène Lomu, nouvelle star All Black. Ces auditeurs, c'était notre histoire d'aujourd'hui, ce soir, de l'édition 24 juin. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis londoniens, bonsoir. Voici donc la mise au point et pour le titre, maintenir la souveraineté dans les eaux de Natuna. La marine indonésienne TNIAL KRI Imam Bonjol 383 a arrêté les navires de pêche étrangères battant pavillon de la Chine qui font la pêche illégale dans les eaux de Natuna vendredi le 17 juin 2016. L'arrestation des bateaux de pêche chinois dans la zone économique exclusive ZEE de l'Indonésie est le troisième incident après que la marine indonésienne arrête les navires et les équipages de la marine de la Chine dans les eaux de Natuna en mars et en mai 2016. À cause de cet incident, le gouvernement chinois avait protesté vivement à l'Indonésie parce qu'il prétend qu'ils font la pêche dans ses eaux territoriales. Répondant à cette question, le vice-président Yusuf Kalla a déclaré mardi que TNI avait mené une action appropriée en donnant un coup de semonce parce que ce navire fait défection quand il est approché par les membres de l'armée indonésienne. Le vice-président a également déclaré que le gouvernement indonésien n'enverrait pas une note de protestation au gouvernement chinois liée à cet incident. Le ministère indonésien des Affaires étrangères appelle juste l'ambassadeur de Chine à l'Indonésie afin d'expliquer ce problème. Yusuf Kalla a affirmé « Le gouvernement indonésien a décidé d'agir de façon plus décisive pour protéger sa souveraineté dans les eaux de Natuna ». Pendant ce temps, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a dit « Les mesures prises par la marine indonésienne pour arrêter le navire et l'équipage de la Chine dans les eaux de Natuna vendredi le 17 juin étaient une forme de cohérence dans l'application de la loi dans la zone économique exclusive de l'Indonésie ». Selon Retno Marsudi, si cet incident reproduiront plus tard, la même attitude sera faite par l'Indonésie parce que c'est une attitude faite par l'Indonésie dans la ZEE et conformément au droit international. Retno Marsudi a expliqué, les 7 équipages étaient en bon état, sans aucune blessure, quand ils ont été arrêtés et emmenés à Sabang Mawang, Natuna, pour l'investigation suivante. Retno Marsudi a également souligné, l'Indonésie et la Chine n'ont pas de problème de chevauchement des zones dans les eaux de Natuna, si bien que la protestation chinoise sur les actions de la marine indonésienne qui a arrêté le navire chinois sans fondement. Il a confirmé que l'Indonésie a seulement la revendication de ses voeux chemins sur la limite du plateau continental et ZEE avec le Vietnam et la Malaisie, et il est encore en discussion. Pendant ce temps, le vice-président de la commission du Parlement, T.B. Hasanuddin, a déclaré mercredi que la note de protestation de la Chine liée à l'arrestation des bateaux de pêche chinois dans la mer de Natuna vendredi dernier, le 17 juin, était une chose ordinaire. Donc, il ne doit pas être répondu en envoyant une note de réponse, mais ce problème est résolu pacifiquement par des négociations entre le gouvernement de l'Indonésie et la Chine. À cet égard, le gouvernement de l'Indonésie et la Chine ont besoin de se réunir, de négocier ensemble pour discuter de cette question afin de ne pas prolonger. Hasanuddin a ajouté, plus tard dans ces négociations, on devrait également être confirmé sur la limite de région qui devient le principal problème. Il a ajouté que dans le processus de négociation, ce qui doit être mis en avant en plus de clarté des limites est d'assurer sur la prévention, de sorte que des incidents similaires ne se reproduisent pas. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir. Le président Joko Widodo, accompagné par le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne, TNI, et le secrétaire du cabinet, a observé les eaux de Natuna, les îles de Riau, du bateau de guerre indonésien KRI Imam Bonjol jeudi. La présence du président Joko Widodo, qui a présidé une réunion limitée sur le KRI Imam Bonjol, est une confirmation que cette île était le territoire souverain de la République d'Indonésie. À cette occasion, le président a également demandé de développer l'économie à l'île de Natuna, en particulier liée à la pêche et le pétrole et le gaz. Auparavant, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a affirmé que depuis le début du gouvernement du président Joko Widodo, a toujours souligné le premier, le développement des régions ultra-périphériques devrait être prioritaire, et la seconde, à propos de la souveraineté et des droits souverains doivent être préservés et maintenus. Cette fois, l'attention du président est sur l'île de Natuna comme l'un de la région ou les îles ultra-périphériques de l'Indonésie. Le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne, TNI, le général Gatot Nurmantio, a affirmé que TNI surveille toujours et agit le développement de la situation dans la mer de Chine méridionale. Gatot Nurmantio a souligné jeudi que TNI guidera toujours et obéit les directives de la politique étrangère du gouvernement. Selon lui, concernant la situation en mer de Chine méridionale, les directives de la politique étrangère du gouvernement sont de réaliser des conditions pacifiques et la stabilité. En conséquence, toutes les parties ne font pas des activités qui pourraient accroître la tension à l'alentour de la zone de mer de Chine méridionale. En outre, le commandant en chef de TNI a confirmé que TNI continuera à renforcer sa présence et les capacités de TNI dans la mer de Chine méridionale. Ceci est en conformité avec les instructions du président Joko Widodo au cours d'une réunion limitée du cabinet sur le KRI Imam Bonjol 383 aux îles de Natuna jeudi. Le vice-président de la commission du Parlement, Hanafi Rais, a déclaré que la nécessité de l'Indonésie sur la présence de bases militaires à Natuna était urgente, parce que les navires battant pavillon chinois entrent souvent dans ces eaux territoriales. Hanafi Rais a déclaré récemment que les eaux territoriales de Natuna étaient une zone économique exclusive appartenant à l'Indonésie qui était reconnue par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS. Cependant, la Chine revendique cette région et leur zone de pêche traditionnelle. Il a ajouté que l'incident à Natuna entre l'Indonésie et la Chine vendredi le 7 juin doit être résolu par des négociations pacifiques. Toutefois, le renforcement des ressources militaires à Natuna doit également être fait comme une mesure de sécurité. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, fera bientôt Natuna et ses environs comme une nouvelle destination touristique. Cela est en conformité avec les directives du président, a dit Arif Yahya à Jakarta jeudi. Le ministre Arif Yahya a dit qu'il a commencé à consolider pour développer Natuna et ses environs comme une nouvelle destination touristique. Selon Arif Yahya, Natuna et ses environs, comme les îles extérieures de la République unitaire d'Indonésie, a un potentiel touristique, notamment en termes de maritime. Par conséquent, il va développer Natuna comme la destination maritime, soutenue par l'infrastructure plus adéquate. L'ambassadeur britannique en Indonésie, Muazzam Malik, a dit que le Royaume-Uni et l'Indonésie coopéraient et partageaient leurs expériences de contrôle de la circulation aérienne. La coopération a été commencée dans la signature du contrat le 3 juin 2015 pour aider à augmenter la capacité de l'aéroport international Soekarno-Hatta de 72 à 86 mouvements d'avions par heure sans changer la configuration de la refait d'atterrissage. Le Royaume-Uni, par de divers organismes et institutions, a déclaré Malik, a déterminé à aider l'Indonésie pour que ce pays puisse contrôler tous les espaces aériens. Le ministère de l'Industrie facilite des activités de promotion des produits de café de spécialité de l'Indonésie à l'Exposition mondiale de café, WOC, à la Royal Dublin Society, RDS, en Irlande. Ces efforts visent également à élargir des marchés d'exportation des produits de café en Indonésie, principalement vers les pays européens. Le directeur de l'industrie des boissons des produits du tabac du ministère de l'Industrie, Willem Petrus Riwu, a déclaré jeudi à Jakarta, dans un communiqué de presse, qu'il introduirait des cafés indonésiens et la diversification des produits de café en Indonésie à la communauté internationale, en particulier l'Union européenne. Les activités de promotion en collaboration avec le ministère de l'Industrie, l'ambassade d'Indonésie à Londres, l'ambassade à Bruxelles, l'association des exportateurs et l'industrie de café indonésien et l'association de café de spécialité indonésien. En 2015, l'Indonésie a exporté le café vers l'Europe jusqu'à 180 000 tonnes. On espère la participation dans l'arène internationale tenue du 23 au 25 juin 2016 renforce la valeur des exportations de café de l'Indonésie à l'avenir. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé La mosquée Al-Ikhlas, la plus ancienne mosquée à Bengkulu de 200 ans et existe jusqu'à présent. Lorsque vous visitez la province de Bengkulu, n'oubliez pas de visiter la mosquée Al-Ikhlas, la plus ancienne mosquée de la province de Bengkulu. Elle a été construite en 1800 par Haji Mansur et désignée comme un patrimoine culturel par le gouvernement de Bengkulu. La mosquée est située dans le village de Padang Betua, la région de Bengkulu Central. Depuis la mosquée Al-Ikhlas établie en 1800, Bengkulu a été frappée par le tremblement de terre plusieurs fois, mais la mosquée n'est pas endommagée. Ceci est parce que le bâtiment est tout à fait unique. Les piliers de la mosquée ont été faits de bois arrangé interverrouillage. L'utilisation de clous n'est pas dominante, mais plutôt à l'aide de chevilles de bois. En outre, les murs de la mosquée sont faits de ciment, mais l'intérieur des murs n'est pas rempli de briques, mais le bambou. Le bambou est d'abord divisé et utilisé comme un substitut pour les briques. Ensuite, les tiges de bambou sont recouvertes de ciment. Ceci est la raison pour laquelle la mosquée, toujours solide, n'est pas endommagée par le tremblement de terre. D'abord, cette mosquée appelée la mosquée Al-Khiras Muhammadiyah parce que les enseignants Kiai Ahmad Dahlan étaient si forte influence dans ce village. Selon l'imam du village, la mosquée est aussi relique du royaume Sungai Limau. Au début de la construction, les murs de la mosquée ont été faits de bois. Le toit est fait de roseaux secs. Les villageois ont commencé à ajouter les piliers et donnent du plancher, tandis que le toit est remplacé par une feuille de palmier. Vers 1985, les villageois ont décidé de construire une nouvelle mosquée, parce que la vieille mosquée ne peut pas accueillir tous les gens du village de Padang Betua, surtout pour la prière, l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha. Au début, la mosquée Al-Ikhlas a été utilisée comme le centre de la propagation de l'islam et lieu de rencontre communautaire pour repousser les envahisseurs. Ensuite, a été utilisée comme lieu de culte. Actuellement, la plus ancienne mosquée de Bengkulu n'est plus utilisée pour les prières villageoises en raison de leur petite taille et les gens construisent une mosquée plus grande. La vieille mosquée est seulement utilisée par les enfants pour apprendre le Coran. Bon, chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé « La mosquée Al-Ikhlas, la plus ancienne mosquée à Bengkulu ». Merci à tous et à bientôt.
Un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre le Festival de Charme de Palu Nomoni 2016. L'Indonésie est riche en diverses attractions culturelles et la beauté de la nature, ainsi qu'une variété de plats avec le goût élevé. Ce potentiel s'étend de la province de Nanggroe Aceh Darussalam aux provinces de Papouasie. Cette richesse fait de l'Indonésie est connue comme l'un des pays qui est une destination touristique populaire dans le monde. Cependant, le secteur du tourisme de l'Indonésie accuse toujours du retard loin du tourisme des pays voisins comme Singapour et la Malaisie. Pour augmenter les arrivées de touristes étrangers et les touristes nationaux, l'une des zones de la province de Sulawesi centrale est prête à tenir le festival, à savoir le Festival du Charme de Palu Nomoni 2016. Chers auditeurs, en septembre 2016, pour ceux qui aiment voyager, doivent être prêts à visiter la ville de Palu à Sulawesi centrale. Il y a le Festival du Charme de Palu Nomoni 2016 qui présentera la culture, les rituels traditionnels et divers types de concours. Le festival aura lieu du 24 au 26 septembre. Enfin, lancement du Festival du Charme de Palu Nomoni a été fait dans le hall de Susilo Sudirman, le bâtiment de Sabta Pesona Langdi. Le ministre du Tourisme Arif Yahya avec le maire de Palu, Hidayat, Le maire adjoint Sigit Purnomo Said et le vice-gouverneur de Sulawesi Central, Sudarto, ont frappé le gong qui marque le lancement de l'événement. Selon le maire de Palu, Hidayat, cet événement vise à promouvoir la ville de Palu comme la principale destination touristique dans le centre de Sulawesi et augmenter la visite des touristes qui ciblent cette année 500 000 touristes nationaux et 25 000 touristes étrangers. L'objectif le plus important du festival est d'augmenter l'économie de la communauté de Palu. Hidayat a expliqué, ce festival annuel est organisé depuis 2008 sous le nom du Festival de la Baie de Palu. Pour 2016, cet événement a changé son nom au Festival du Charme de Palu Nomini. Nomini, selon la langue locale, signifie sonner. Ce festival présentera les attractions intéressantes, entre autres les arts culturels. La première activité au long de 7,2 km, il y avait 520 points d'épaire de la torche. Ensuite, il y a la flûte et un tambour et un tiron et les torches qui allument simultanément lors de l'ouverture du festival. La deuxième activité, le rituel coutumière. Il y a aussi la scène culturelle au long de 7,2 km. Ce qui rend ce festival unique est que les touristes seront transportés avec la voiture à cheval pendant le festival. Le Festival du Charme de Palu Nomini 2016 sera également animé par un marathon qui sera en concurrence 3 numéros. Tout d'abord, la pleine marathon avec la distance de 42,195 km, puis half marathon de 21,1 km, ainsi que la classe de 10 et 5 km avec un prix total qui atteint 400 millions de rupiahs. Serviteur, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir avec le titre Festival du Charme de Palu Nomini 2016. Demain, nous nous retrouverons avec le sujet plus intéressant. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Salut chers amis, voici le magazine de musique de la Voix de l'Indonésie, édition de vendredi avec moi, Muhammad Suwartono. Comme chaque vendredi, on vous présente la musique de rythme de dangdut. Et ce soir, on vous présente le chanteur Arafik. Bon, avant de continuer notre rencontre, écoutez d'abord la première chanson de Arafik intitulée « Usah Bertanya ».
Usah bertanya, apakah sebabnya air mata berlinang selalu. Bukan derita menyiksa jiwa, mataku basah karena gembira. Usah kau cemburu, jangan kau merindu, melihat kasihku telah berpadu. Usah kau cemburu, jangan
apakah sebabnya air mataku berlinang selalu? Usah kau cemburu, jangan kau merindu. Melihat kasihku telah berpadu. Usah kau cemburu, jangan kau merindu. Melihat kasihku telah berpadu. Aku tiada menduga, aku tiada mengira. Apakah sebabnya air mataku berlinang selalu?
Serzami, Ahmad Rafiq, Kamda Bitut, Kang Til Sepresang, Il Port Le Stil de Elvis Presley. Et vous savez, il est né à Semarang, Java Central, au 5 mars 1948. Rafiq est très connu en Indonésie depuis sa petite. En 1978, avec la chanson Pandang Pertama, Rafiq a frappé la musique de dangdut en Indonésie. Et son nom est très très populaire. Plus tard, cette chanson rechante avec la chanteuse Nirida Zubir pour son film Get Married. Chers amis, outre comme chanteur, Rafiq est aussi populaire comme acteur, ainsi que le mise en scène pour le film musical Si Miskin Bercinta. Chers amis, avant de continuer, écoutez la deuxième chanson intitulée Pandang Pertama. La chanson qui a fait le nom de Ahmad Rafiq est très populaire. Bonne écoute.
Lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu manis sekali, sehingga membuat aku tergoda. Sebenarnya aku ingin sekali mendekatimu, memadu kasih, namun sayang sayang malu rasanya. Biar ku cari nanti caranya.
Jatuh cinta, senyumlah
Chers amis, le film musical de Si Miskin Bercinta, sous direction Arafik, est impliqué des chanteurs célèbres tels que Mansur S, Hetty Sujaya, Jaja Miharja, Ira Safitri et actrice senior Mieke Wijaya. Et vous savez, Arafik est descendant de l'Inde pakistanais. Il a déjà étudié auparavant au campus de l'Institut des Arts de Jakarta. Mais il y a beaucoup des œuvres avec tout cela. Mais le voyage de Arafik est fini. Au 19 janvier 2013, Arafik est décédé à l'hôpital à cause de maladie cardiaque. Bon, chers amis, c'était le magazine de musique avec le chanteur Arafik. Et avant de terminer notre émission, écoutez donc la deuxième chanson intitulée Cintaku et Milikku. Bonne écoute et au revoir.
Cintaku terbang bersama sang bayu, menembus awan di langit yang biru. Begitu juga cintaku untukmu, sayang aku takkan pernah ragu. Aku salut pada sang pencipta. Kita tercinta di dunia ku saling mencinta. Di mana aku menginjakkan kaki, di situ aku teringat padamu. Selama darahku masih mengalir, takkan hilang wanginya nafasmu. Datanglah kau kemari padaku, seolah bagai mengobat rindu. Izinkan aku untuk menciummu sekali seumur hidupku. Syukurlah kalau kau mendengarku, lakukan bahagia selalu. Kan mau berpisah denganmu, cintaku abadi selalu.
Aku pun rindu seperti dirimu, kalau tak percaya belah dadaku. Berjuta rasa cintaku padamu, sekarang cepat ciumlah.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Jangan-jangan samakan
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya gadis secantik dia datang. Hampir aku tak sadar dibuatnya. Sungguh karena dia
pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa membuat aku rindu ingin selalu berdua. Kiranya asmara telah membakar dada.
Chers auditrices et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.